Bonjour.
Bonjour.
Et oui, vous ne rêvez pas, c'est un deuxième podcast de Perdusa, un podcast matinal avec aujourd'hui, pour la première fois sur les podcasts de Perdusa, Iris.
Bonjour.
Bonjour.
Et oui, Drum est là aussi.
Bonjour.
Il y a Thibaut.
Bonjour.
Et puis il y a moi aussi. On va commencer tout de suite par discuter de comédie, puisque Drum est parmi nous et que c'est à peu près la seule chose qu'il regarde et qu'il aime bien à la télé, mis à part les séries qui passent sur le câble et qui durent 1h15 et qui ont trait à la Nouvelle-Orléans, au Cyclone et à la Mafia. Et donc on va discuter de Community. C'est parti.
Moi j'aime beaucoup, je trouve ça super cool. Non, mais je sais pas, vous avez...
Donc Community qui est dans sa troisième saison, pour rappeler à tout le monde, et qui, à quelques semaines de ça, a été, entre guillemets, mise au placard pour quelques mois. On sait pas trop si ça va revenir un jour sur NBC ou si la série est définitivement annulée. En tout cas, est-ce que vous avez été triste d'apprendre que vous verriez plus d'épisodes de Community pour les prochains mois?
J'ai pleuré. Oui, vraiment, oui, j'étais...
Alors on rappelle à tous que Iris a 18 ans, donc c'est normal de les choses de façon intense.
Non, moi, mais...
Et ça vient du gars qui vient de nous avouer qu'il a pleuré hier devant Grey's Anatomy.
Alors ça, on va en parler tout à l'heure. Mais je pense que les gens qui pleurent pas devant Grey's Anatomy, devant l'épisode d'hier, sont des gens insensibles.
Tout à fait. Oui, Jules.
Jules pleure devant Grey's Anatomy. Mais il a pas osé le dire, mais il a pleuré beaucoup.
Ça fait de lui encore plus un homme parfait. Je le savais.
Donc pour Community.
Moi je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve que déjà Dan Harmon est génial et je suis amoureuse de lui, c'est un fait. Et j'ai envie qu'il continue à nous faire des épisodes du calibre de ce qu'il y a eu la saison dernière, à l'épisode de l'anniversaire de la Bête en avant. C'était la saison dernière ça ?
Non, ça c'était la saison. Enfin non, c'était cette année. Non, l'anniversaire d'Abed, c'est
l'anniversaire
quoi?
Non, c'était l'année dernière.
Ah, c'est pas quand ils emménagent et qu'ils voyagent
non plus. Non, pareil, c'est... l'épisode où ils emménagent aussi, il était assez glorieux. Et j'ai trouvé que, globalement, j'ai beaucoup aimé... Il y a moins de pics de qualité que dans la saison dernière, mais c'est plus constant. Et je trouve ça, moi, ça me dérange pas du tout.
C'est plus constant, mais en même temps, moi, je trouve qu'un épisode juste dans la moyenne de Community, c'est pas complètement satisfaisant. Je suis d'accord sur les pics de qualité qui font des choses très très bien de temps en temps, mais un épisode juste normal de Community, une fois sur deux, j'en ressors un petit peu ennuyé.
Le truc de la timeline était comme...
Timeline c'était excellent, ça je suis d'accord.
C'était exceptionnel.
Mais par exemple, là, je crois que c'est le dernier épisode qu'ils ont fait où ils parodient Glee. Et oui. Ben franchement, je me suis
ennuyé.
J'ai bien aimé le passage en rap de Abel et Troy, parce que je suis fan de Childish Gambino, qui est donc l'alias rappeur de Donald Glover, mais la partie d'Alison Brie, elle était
Alison Brie, c'est scandaleux, moi je peux plus voir Alison Brie depuis
qu'on voit que son cul, c'est
fond aussi, c'est ça.
Ouais.
Aussi, ça c'est.
Mais il y a une saute un peu aux yeux.
Mais surtout, j'arrivais pas à savoir si c'était du second degré ou si c'était une façon de juste de montrer Alison Brie habillée en Père Noël, en tenue moulante quoi.
Je pense que c'est du second degré par rapport à la manière dont elle est représentée dans la presse.
Je sais pas, moi j'ai trouvé cette scène assez. Pas drôle en fait, donc comme ça me faisait pas rire.
Ce serait dommage que Community termine cette diffusion sur un épisode aussi faible que celui-ci, mais en moyenne, moi je rejoins l'avis d'Iris, enfin, je préfère une saison un peu plus constante que la saison bipolaire qu'on a eue l'année dernière, où on passait d'un épisode comme l'épisode sponsorisé par KFC,
qui était honteux,
ou l'épisode de fin avec le paintball à nouveau.
Non, j'ai détesté ça.
C'était assez pénible, ces épisodes très mauvais qui côtoyaient des épisodes vraiment bons. Et l'avantage, même quand Community est un peu moyen, Dan Harmon est quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et c'est ça qui est assez intéressant dans la série. Le fait que ce soit un type particulièrement sombre et que sa série le montre, ses personnages sont... Ils sont pas super super joyeux comme
on les aime pas. D'ailleurs, je crois qu'on n'est pas censé les aimer.
Moi, à Beth, je l'aime énormément.
Bah, Beth, c'est peut-être le seul personnage.
Je l'aime parce que c'est moi, mais. Moi, c'est égocentrisme.
Ça m'a un peu perturbé cette saison à Beth. C'était avec l'épisode où.
On dit avec que c'est les tests. Normal.
Exactement. Ouais. C'était trop pour moi.
Moi aussi, ouais, ça c'était un peu.
C'était un peu trop pour moi, mais Dan Harmon a quelque chose à dire. Il a une sitcom qui a une forte personnalité.
Mais ça, ce qui se passe, c'est que je pense que si Community est annulé, Dan Harmon il va continuer à faire des trucs de son côté et je pense que ça aura toujours. Je pense que cette personnalité, tu pourras la retrouver dans tout ce qu'il fera.
Mais je pense qu'on disait la même chose. Moi, je pense pas. Moi. C'est ce qu'on disait de Mitch Hurwitz avec Arrested Development.
Mais quand tu lis, parce qu'il écrit beaucoup sur Internet, Dan Harmon, quand tu les lis, tu vois, t'as l'impression de lire une version un peu plus sombre de Community et limite, je serais d'accord de dire au revoir à Community. Si ça peut me garantir que Dan Harmon écrive soit une autre sitcom, soit limite même un drama. Je pense que j'adorerais voir Dan Harmon écrire un drama sur. Ouais, je sais pas, sur des Sorty Something.
Sur des gens qui retournent en fac.
Ouais, peut-être ça pourrait être intéressant comme départ, mais.
Moi, je suis
pense
pas
que c'est casse-gueule comme concept.
Moi, je suis pas, pas convaincu qu'un showrunner qui fasse une bonne série. Va automatiquement faire tout le temps des bonnes séries par la suite. Encore une fois, je reprends l'exemple de Mitch Hurwitz. Arrested Development, c'est vrai que c'était une excellente série, mais quand tu revois Shut Up and Sit Down et sa série avec Will Arnett, Running Wild, c'est le même gars, faut pas se leurrer.
On peut même avec tous les moyens, puisque là, après la site development, il avait complètement carte blanche. Peut-être que de toute façon.
Mais justement, est-ce qu'avec Running Wild, il n'a pas un peu pris peur. Enfin, est-ce qu'avec la site development, il n'a pas pris peur pour Running Wild, qu'il a essayé de faire un truc plus.
Ok, dans ces cas-là, je te donne un autre exemple. Alan Ball, qui fait une sitcom immonde sur ABC juste avant de faire Six Feet Under.
Et qui ensuite va faire True Blood.
Et ensuite va faire True Blood. C'est.
D'accord.
Là, il y avait une alchimie parfaite entre une très bonne distribution, des bons scénaristes, parce que c'est pas le seul à, pas le seul à écrire.
En dehors de Ahmed et Troy, donc Community, je crois pas qu'il y ait des acteurs qui soient spécialement.
Oh Ahmed et Troy, c'est pas mes acteurs préférés, mes deux acteurs préférés, moi c'est Gillian Jacobs et John McHale.
John McHale aussi, mais je trouve que Ahmed c'est le seul qui fait quelque chose de vraiment remarquable.
Moi je trouve pas, je trouve qu'il a Abed, j'aime bien le personnage, je trouve l'acteur bien, mais je trouve que c'est pas le rôle le plus difficile de Community. Et finalement, par exemple, moi, l'actrice qui joue Britta, je trouve qu'elle est excellente. Et pourtant, elle a pas forcément le rôle qui la met la plus en valeur.
Surtout quand tu te fais une intégrale assez rapide, quand tu regardes le premier épisode et puis les épisodes de saison 3, c'est. Elle est juste géniale. Ouais. C'est l'actrice dans la distribution qui a le rôle le plus subtil et pour moi la plus drôle.
Ouais.
Et elle est plus belle qu'Alison Brie.
Non, alors ça, non.
Le problème, c'est qu'Alison Brie, elle n'est pas très belle. Elle croit qu'elle est belle parce que sur Internet, des gens la trouvent bien parce qu'elle joue dans Community, mais elle est pas, c'est pas non plus la bombasse de la télé actuellement. Et
c'est justement quand ça qui est attirant.
Oui, mais du coup, quand elle passe son temps à s'habiller en Père Noël, en Mère Noël ou autre, ça.
Mais est-ce que c'est Alison Brie qui décide de s'habiller comme ça ou c'est les scénaristes qui la mettent dans cette position-là ?
Je pense que c'est Alison Brie, parce que quand tu vois les couvertures de magazines qu'elle a faites, les interviews qu'elle donne.
Toutes des salopes.
Mais moi, ce qui me gênait en fait dans Community, c'est. Je trouve que ça a poussé un peu plus loin que d'autres sitcoms. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de sitcoms en fait où. J'ai l'impression que les scénaristes se concentrent un épisode sur trois. Plutôt que de faire quelque chose de très régulier, ils font un épisode sur deux ou trois qui est très très bien. C'est un peu ce que faisait par exemple Why I Met Your Mother ou Modern Family dans les premières saisons.
T'es très énervé avec ton ratio pour Why I Met Your Mother.
Et merci. Où j'en étais. Et il y a un épisode sur trois où effectivement c'était Robin Sparkle ou quelque chose de vraiment drôle. Et là on se disait, ah elle est géniale cette série. Mais ensuite, peut-être pour des raisons, je sais pas, de budget ou d'inspiration ou de temps à consacrer, ensuite on avait deux épisodes un peu plan-plan. Et Community, moi, dans la deuxième et dans la troisième saison, c'est un peu l'impression que j'avais. C'est qu'il avait quelques épisodes où il avait une idée géniale et il se concentrait, tout le monde se concentrait vraiment dessus. Et qu'ensuite, il y avait des épisodes qui étaient un petit peu en mode automatique et qui étaient en fait pas très drôles. Et en plus, Community, je suis pas suffisamment attaché au personnage pour passer un bon moment devant un épisode qui me fait pas rire. Et c'est ça qui m'a gêné. C'est plus le... je trouve qu'en tant que série de 22 épisodes, ça fonctionne pas tout à fait, Community.
Mais est-ce que la saison 1, c'était pas aussi un peu ça? Enfin, parce que j'ai pas...
Non, les personnages étaient intéressants.
Par rapport à la saison 3, je trouve que... Enfin, la saison 2, je l'ai pas particulièrement aimée. Mais la saison 1 et 3... Enfin, la 3, vraiment, j'accroche bien, moi.
Moi aussi, j'aime beaucoup, mais la saison 1 était... Enfin, était meilleure, quoi.
Parce qu'elle était un peu plus équilibrée. Parce qu'il y avait quand même 6 épisodes qui étaient nazes en saison 1.
Mais enfin, la saison 3 met Abed au centre. En gros, tout le monde s'est rendu compte que Abed c'était le personnage de Community, ou en tout cas les scénaristes, et ils ont décidé de mettre le paquet énorme sur Abed en laissant tomber un peu les autres, alors que dans la première saison...
Ah, je suis pas d'accord avec toi.
Oui, il y avait un ensemble.
Ah non, je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'ils oublient les autres personnages.
En tout cas...
Je trouve qu'elle est...
ils sont relégués, on les voit moins souvent, et ils sont... traité d'une façon différente de la façon qui est traité Abed, apparaît comme le personnage principal, central, le héros de Community.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Un bon exemple, c'est Shirley. Shirley qui est devenue un personnage détestable en saison 2.
Shirley, elle a toujours été détestable.
Non, en saison 1,
elle était chouette.
Elle était vraiment chouette.
Moi, j'ai jamais aimé Shirley.
C'est un personnage qui peut être drôle quand ils en font de bonnes choses, mais faut pas qu'ils le relèguent au second plan.
Enfin, le fait que tu n'aimes pas Shirley, c'est parce que t'es en Suisse, t'as jamais vu de noir de ta vie, en vrai.
Si, j'ai déjà joué avec du cirage.
Oh, c'est horrible. Et donc...
Heureusement que mes parents savent pas utiliser Internet.
Mais... En plus, moi, ce qui me dérange, c'est dans ce côté Abed, c'est le seul personnage normal, c'est le personnage qui est de toute façon toujours à son avantage. Mmh. C'est jamais le personnage qui, à la fin de l'épisode, se réveille. En fait, la série se moque pas vraiment d'Abed. Et ce qui me gêne, c'est que c'est clairement le personnage dans lequel Dan Harmon se reconnaît. Donc, au final, c'est assez agaçant, cette tendance à toujours montrer que les autres personnages autour d'Abed sont un peu moins normaux qu'ils le pensent, sont hypocrites, etc. Quand on sait clairement qu'au fond, le scénariste... essaye de parler de lui.
Mais je pense que c'est parce que le personnage d'Abed, ça me paraît évident que c'est un personnage qui souffre déjà assez comme ça, enfin, qui est assez destiné à souffrir pour sans qu'on puisse, on en rajoute. Enfin, il n'est pas dans la norme, il rentrera jamais dans la norme. Limite, des personnages genre celui de Jeff, de Brita et tout ça, on sait qu'ils ont une vie, ils ont un futur. Abed, est-ce que vous pouvez le voir évoluer d'une manière où il finira entre guillemets bien?
Bah oui.
Oui.
Non, bah, il va finir seul.
Il va finir réalisateur d'une sitcom sur NBC que tout le monde adorera
sera
sur Internet, mais que personne ne regardera en vrai, et puis voilà.
Mais au contraire, parce qu'il a son groupe d'amis qui va peut-être l'aider à un peu mieux comprendre le monde, c'est aussi ça. C'est aussi l'avantage.
Non, j'ai pas l'impression que c'est un personnage qui puisse évoluer. Enfin, qui puisse vraiment évoluer. Parce qu'il est trop...
Non, t'as pas cette impression parce qu'il a pas du tout évolué depuis 3 ans. Parce qu'il est toujours enfermé dans les mêmes gimmicks. Et qu'effectivement, c'est un... Alors que par exemple, le personnage de Troy, il s'est adapté à Abed. On parle pas assez fort, c'est pas
vrai. Ouais, j'ai l'impression.
Oh, et ben on va... pas entendu ma blague raciste.
Mais non, mais y a pas de souci, on va continuer en... Attends, on va rapprocher ça... C'est le vrai podcast anniversaire avec les soucis de son, les gens qui mangent en même temps parce que c'est l'épiphanie, parce que c'est hier, donc on mange la galette des rois en l'honneur de Drum et de Iris, et voilà.
Et puis nous on est comme la partenaire de Tom dans le deuxième épisode de Spooks, on kiffe la friture, celle qui se fait tuer.
C'est le deuxième épisode.
Elle se fait tuer, tête dans la friteuse.
Il y a aussi Rorschach qui tue quelqu'un comme ça dans Watchmen.
Quoi?
De quoi tu parles?
C'est un film.
Ah oui,
on a dit que les films, c'est des pilotes ratés.
C'est ça ce que j'ai dit, je suis vraiment désolée.
Garde tes opinions bizarres de déviantes pour ton podcast Any Given Movies ou...
Film.
Peu n'importe.
Any Given Film, écoutez-nous.
Donc Community, au final, va manquer à personne, si j'ai bien compris.
Non, moi, ça va me manquer, mais j'aimerais bien juste avoir une quatrième saison et qu'on s'arrête là. juste qu'on en finisse, que c'est un bon cycle, il a fait des bons épisodes, il a fait des épisodes moyens. Le fait que la série s'arrête sur un épisode assez faible comme l'épisode de Noël,
c'est dommage.
Ce serait...
Mais de toute façon, il y a d'autres épisodes qui ont été tournés, donc quoi qu'il arrive en DVD ou machin, il y aura la saison 3 en entier.
C'est pas faux.
C'est pas faux. Sauf s'il est fini sur un cliffhanger, un épisode de Paintball.
Non, ils avaient promis qu'ils ne feraient pas d'autres épisodes de Paintball.
Ouais, tout comme dans Survivor, Jeff Probst avait promis que jamais il referait comme en saison 7 où une fois que t'étais éliminé, tu pouvais revenir. Et résultat, ils ont fait deux saisons là-dessus. On peut jamais compter sur les gens de la télévision.
Moi, je fais confiance
uniquement, on peut compter sur eux pour nous décevoir. C'est la même chose avec Amy Poehler et Parks and Recreation. Vous en pensez quoi de cette saison 4 de Parks and Recreation?
Elle est bien, mais elle me fait vraiment, vraiment, vraiment de la peine. Ils se retrouvent avec deux gros problèmes sur les bras. Rob Lowe et l'insupportable Adam Scott. Autant j'étais content de son arrivée dans la série au tout début, parce que c'était une version un peu revue de Mark, qui marchait un peu mieux, autant Mark Brendanovic. C'est un noir consonance juive, c'est pour ça que tu suis, t'es pas habitué aussi.
Exactement.
C'était le copain d'Anne.
Dans tu dois avoir des tableaux de lui chez toi.
De Anne,
c'est celui qui avait couché avec... Amy Poehler, et ensuite il sortait avec Anne.
Ah, d'accord, ok. Ouais.
Le mec, enfin...
Mais c'est normal que tu te rappelles pas de lui, en fait.
Parce qu'il était fat, c'était un pot de fleurs, quoi. C'était...
Ouais, d'accord, je vois. Je crois que j'arrive à se situer.
Enfin, tout ça pour dire que à son arrivée, c'était potentiellement une bonne idée. Maintenant, il est vraiment en train de plomber le personnage de Leslie Knope, et il a plus du tout sa place dans la série. Et c'est un gros problème que les scénaristes se sont obligés de garder Adam Scott et Rob Lowe, qui clairement font tache dans la distribution.
Et ça aurait fait des super guest stars pour la saison 3. Ils avaient leur rôle à remplir pour des arcs qui ont fait que cette saison 3, c'était la plus maîtrisée de toute la série.
Non, ça reste la 2.
Moi, le seul truc qui me gêne, j'aime beaucoup Rob Lowe, j'aime beaucoup Adam Scott. Le seul truc qui me gêne, c'est que Aubrey Plaza est beaucoup moins... Elle est beaucoup moins utilisée qu'avant. Enfin, elle est plus... Maintenant, c'est devenu une espèce de faire-valoir de...
Du blond, là. Ouais, de son mari, où en gros, c'est aussi un être humain, il faut être sympa, s'il est débile mental.
Et elle a vraiment plus de... Elle a plus aucune intrigue propre. Il me semble qu'elle n'avait pas eu d'intrigue propre à elle dans cette saison.
Mais Aubrey Plaza, c'était vraiment un excellent second rôle à petite dose. La gamine sarcastique, elle était parfaite. Le fait qu'il l'ait associée avec Chris Pratt, il n'y a que le personnage d'Andy qu'on a bénéficié, parce que c'était un gros connard en première saison, c'était un loser en saison 2. Là, il devient un peu plus sympathique, c'est l'animal de compagnie de la famille.
C'est un golden retriever.
Exactement. Mais par contre, ça se fait au détriment d'Aubrey Plaza.
Ouais.
C'est triste, ça. Et comment ça se fait que t'aimes bien Rob Lowe?
Parce que je sais pas, je trouve qu'il a l'air d'avoir pris de la cocaïne et je trouve que c'est chouette les gens sous cocaïne.
Oh, il est insupportable.
Non,
il est insupportable. Je comprends même pas comment ils ont pu avoir l'idée d'ajouter Rob Lowe à Parks and Recreation.
Sais pas non plus comment ils l'ont ajouté, mais je trouve que c'est un des nouveaux personnages, entre guillemets, que j'ai préféré voir arriver.
Enfin, moi quand j'ai lu que c'était NBC qui avait plus ou moins forcé Rob Lowe.
Ah, mais ça, je savais pas.
Sur 5 ou 6 épisodes, ça aurait fonctionné face à Rob Lowe, ça allait. Il était plutôt drôle dans le rôle du patron, un peu machin. Ça donnait une pseudo-intrigue à. Comment elle s'appelle l'infirmière?
Anne.
Anne. C'était. Mais oui, ce qui est un peu étrange, c'est que ces deux personnages, voire ces trois personnages. Parce que moi, je supporte pas Chris là. Non, Chris, c'est Rob Lowe. Chris Pratt, son personnage.
Andy,
moi je trouve qu'il entre dans la même catégorie que ces deux-là, c'est-à-dire que ces personnages où les scénaristes se sont forcés de garder en l'associant à d'autres et finalement en plombant les forces de Parks and Recreation pour maintenir cette unité.
Et le problème, c'est qu'on suit un peu le chemin de The Office. C'était Parks and Recreation, c'était censé être une petite satire sur. La vie politique dans une petite ville aux États-Unis. Et puis là, c'est.
Mais ça, pour moi, c'est déjà plus le cas à partir de la saison 2. Enfin, quand ça devient vraiment bien, c'est quand ça s'éloigne un peu de ce. ce setup.
Non, je suis pas d'accord.
La saison 2, il me semble qu'on en a déjà plus dans les relations entre les personnages et moins dans la satire. Et ça rend le
truc. Non, dans la saison 2, il n'y a aucune relation. Y a, à part, et encore, c'était assez.
Anne et...
Non, mais il compte pas. Pourquoi? Quand tu regardes toutes les intrigues, parce que la star de la série, c'est Amy Poehler, c'est Leslie Knope, qui est un super personnage.
Ouais. Mais ça, c'est toujours. Enfin, je trouve que c'est toujours un peu le cas. Peut-être avec un peu. Ron Swanson, je trouve. Mais je pense qu'elle est toujours bien assez au centre.
Moi, ce qui me gêne un peu, c'est que cette saison, avec le coup de l'élection, quand elle a choisi de plaquer Ben, je pensais vraiment qu'on allait mettre cette intrigue de côté, que ça allait, qu'on allait vraiment avoir un peu comme la réélection de The West Wing.
Saison 6.
Exactement.
Ou saison 4.
Je sais plus.
La réélection de Bartlett, c'est la 4.
Merci pour le spoiler. Ouais, j'ai toujours pas vu The West Wing, je compte toujours.
Tu nous as dit que t'avais 4 ans quand la série est sortie. Je peux pas considérer que c'est un spoiler. Encore une fois, c'est comme les gens qui savent pas que Bruce Willis est mort pendant Sixième Sens.
Quoi? Bruce Willis a joué dans le Sixième Sens?
Non, c'est vraiment... Bah, c'est vraiment dommage. C'est un peu gâché comme saison.
Alors, en comédie, il nous reste... Alors, Rapine, disons, on en a déjà parlé la dernière fois. Est-ce que vous avez des choses, tous les deux, à rajouter sur la remplaçante officielle de Cougar Town?
Je trouve pas que ce soit la remplaçante officielle de Cougar Town, parce que j'aime Cougar Town.
Elle t'aime pas, Rapine?
Si, mais Cougar Town, pour moi, c'est une très très bonne série. Et je trouve que Happy Endings, j'aime de plus en plus. Je m'attache vraiment au personnage, mais Cougar Town, j'attends son retour et mais je vais pas lui trouver une remplaçante pendant qu'elle est partie comme ça, qu'elle a le dos tourné, parce que c'est pas comme ça que je suis. Je suis fidèle. Voilà.
Moi, je suis d'accord que à choisir entre Happy Endings et Cougar Town, même si j'adore Happy Endings, Cougar Town me plaît davantage parce que je suis plus attaché au personnage, mais c'est aussi parce qu'il y a deux saisons derrière. Mais voilà, sur le même type d'humour.
Je pense que vous avez tous les deux tort, mais bon. En même temps.
Terra.
Je vois, mon avis ne compte pas trop.
Une série sur laquelle nos deux nouveaux amis, qui sont Drum et Iris, vont pouvoir s'exprimer, puisque il n'y a que deux qui la regardent. Oula, bon, bref, c'est Two Broke Girls.
Ça me fait beaucoup rire, Two Broke Girls.
Moi aussi.
Ça ne devrait pas, hein, c'est...
Ben, je trouve que c'est de l'humour vraiment à l'ancienne, quoi. C'est des punchlines, enfin, à l'ancienne, entre guillemets, enfin, c'est des punchlines, c'est deux personnages qui fonctionnent hyper bien ensemble. Et le reste, c'est un peu à chier, mais il y a cette espèce de noyau fort de la série. Et ça fonctionne à chaque fois. Moi, je crois que devant tous les épisodes, je ris au moins une fois.
Ouais, ça me fait beaucoup rire, moi, ça me plaît énormément. Ça devrait pas, parce que c'est du Whitney Cummings, mais...
Mm. En fait, je pense que Whitney Cummings, que Whitney, la série, est encore à l'antenne uniquement parce que Whitney Cummings fait du chantage par rapport à Two Broke Girls en genre, si vous supprimez ma série, c'est fini pour Two Broke Girls.
Bah, à mon avis, je pense pas qu'elle ait ce pouvoir-là. De toute façon, Two Broke Girls, c'est le mec de Sex and the City qui la gère.
Mais alors, comment c'est possible qu'il y ait encore Whitney à la télévision?
Alors, ça fait question.
C'est parce que sur NBC va tellement, tellement, tellement mal. Comment ça se fait qu'il y ait toujours Community à la télévision depuis l'épisode 3 de la saison 1? C'est qu'ils sont tellement mal sur NBC, ils ont tellement rien. Je crois que Whitney doit faire un peu mieux qu'Outsourced ou des trucs comme ça. Et c'est pour ça que c'est toujours à la télé. Et je pense pas qu'ils soient particulièrement fiers de la série, qu'ils en attendent. Mais c'est l'une des rares séries qui soit pas en dessous des audiences d'Univision ou un truc comme ça. Donc c'est pour ça, je pense pas que Whitney Cummings ait un quelconque quelque chose à dire sur l'avenir de sa série.
En même temps, tu utilises des produits Apple, donc tu n'es pas vraiment un pro des conspirations.
Mais c'est assez bizarre d'avoir quand même Whitney à l'antenne.
Enfin, c'est... Et Community, qu'on va perdre Community alors qu'il y a Whitney.
Non, mais dans
encore.
Une soirée où il y a 30 Rock, Parks and Recreation, même le nouveau The Office, qui n'est pas aussi catastrophique qu'on aurait pu penser. Oh. Whitney fait vraiment tâche.
Et Catherine Tate, elle est arrivée ou pas?
Pas encore.
Pas encore.
Oh, c'est horrible. Il y a Maura Tierney, il lui arrive un truc à son visage qui est assez flippant. Il ne faut pas que tu regardes, ça fait très peur.
Il va y avoir Catherine Tate?
Ah là là!
Putain, mais vous êtes vraiment obligé de balancer des spoilers comme ça.
Oui, il va y avoir Catherine Tate.
Alors, un spoiler, c'est donc quelque chose qui est annoncé officiellement par la chaîne, qui est relayé sur tout Internet pendant 3 mois. Dont Twitter.
Que tu ne connais peut-être pas, Iris, Twitter.
Non, je ne connais pas, c'est quoi?
Mais donc, tu avais réussi à échapper à ça?
Oui!
Oh. T'inquiète, on en a plein d'autres, ça va être super.
Il y a une règle très simple sur ma timeline. C'est que si tu me spoil, ma timeline, c'est l'historique des messages qui s'affichent sur Twitter, d'accord, des gens que tu suis. C'est que si on me spoil, je retrouve ta famille et je la bute. Donc,
ah bah en si même temps, attends, bah, c'est cool. Moi, j'avais pas un spoiler à te raconter, parce que je suis un peu en froid avec ma famille.
Tu aurais pu faire ça avant Noël.
Donc, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je dis ça uniquement pour le plaisir... d'avoir une réaction d'Iris. Bon, bref. D'autres sitcoms dont vous voulez parler? On est bien en forme, on a bien fait de faire le podcast le matin.
Suburb Gata Battery. Qui est une très mauvaise... Enfin,
moi, je suis très fier puisque c'est la première série de 2012 que j'ai arrêtée.
Moi, j'ai pas du tout accroché.
Moi, j'ai décidé de l'arrêter, mais je l'ai pas vraiment arrêté. C'est-à-dire que j'ai quand même regardé l'épisode de reprise en me disant « Ouais, j'ai bien fait d'arrêter. »
Mais parce que le pitch de départ était plutôt sympa, c'est-à-dire bah si ça m'amusait de voir
on se rappelle quand même, s'il vous plaît, on se rappelle qu'à la rentrée j'étais la seule de la rédaction à ne pas s'enthousiasmer pour ce burgatory.
Je compte pas, je suis arabe et à côté de moi je pense qu'il y a quelqu'un qui ne connaissait même pas l'existence de la série.
J'ai même pas entendu parler de cette série, donc
En quoi c'était une bonne idée? C'est une série qui reprend le principe de Mean Girls.
Exactement.
Sans payer des droits d'auteur à Tina Fey. C'est une série qui arrive 6 ans trop tard. C'est une série qui parle de la vie dans les banlieues. Ce qui devrait être sorti comme à la suite de Desperate Housewives, quand il y avait toutes ces séries comme Wiz, comme The Riches, où on montrait qu'il ne faut pas faire confiance à ses voisins, ils sont tous bizarres.
Tout le monde considérait cet ado, je sais même pas son prénom, la Rousse. Et j'espère qu'on entend tout le mépris que je mets en disant la rousse.
Contre tous les roues en général, contre celle-ci.
Donc, cette rousse-là, où tout le monde s'est enthousiasmé, tout le monde était là, oh, elle est tellement drôle, elle
est
tellement
spirituelle. Et c'est qui le tout le monde dont tu parles?
Twitter.
Et Ju.
Faut que j'arrête de balancer des conneries sur Ju, parce qu'après, ils vont encore plus m'engueuler. Mais je sais que dans la rédaction, il y avait des gens qui avaient dit que c'était trop bien.
J'avais trouvé ça plutôt chouette. Le principe des New-Yorkais, les bobos débarquent chez les hétérobofs, en gros, c'était... je sais pas, je trouvais que ça aurait pu marcher. Peut-être qu'au final... Le principe même était pas bon, mais en tout cas, je pense qu'il y avait on pouvait avoir quelques espérances pour cette série. Au final, il y a pas de confrontation en fait. Ils sont tous pétés de thunes et c'est la dure vie des gens qui sont pétés de thunes et qui s'intéressent pas aux autres. Alors effectivement,
c'est original pour une série.
moi je trouve qu'il y a rien
d'intéressant. T'as raison, en même temps, c'est la base de tous les soaps et j'adore tous les soaps. Je comprends pas alors.
Il y avait, le principe en lui-même n'était pas si intéressant que ça. C'est un peu comme si quelqu'un disait tiens, on va faire un remake de la Mélodie du Bonheur, mais on va prendre Roman Polanski pour le diriger parce qu'il s'entend bien avec les mômes. Et puis le principe était tordu, c'était reprendre exactement le principe de Mean Girls
sans Tina Fey.
Je vois pas l'intérêt.
Je comprends tes métaphores, je suis fière de moi. Tes comparaisons, pardon.
Est-ce qu'on reste dans les sitcoms? Est-ce qu'il y a des choses drôles sur les networks qui vous font rire?
Moi, j'aime bien le nouveau The Office.
Moi aussi.
Voilà, ça c'est dit. Happy Ending, c'est dit. Tumbro Girl,
c'est dit.
Sur la Fox, New Girl, c'est aussi mauvais.
Quelle horreur!
D'accord.
Crève, New Girl, crève.
New Girl, c'est une idée aussi mauvaise de... C'est comme si quelqu'un disait, tiens, on va faire un remake de La Mélodie du Bonheur, mais dans le premier, il y avait un sous-entendu vraiment anti-nazi. On va prendre quelqu'un qui a un avis assez neutre, on va prendre Lars von Trier pour réaliser. New Girl, c'est ça. New Girl, c'est un principe qui est assez flippant, parce que le personnage principal, moi, ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est qu'elle est institutrice. Elle s'occupe d'enfants. C'est une fille qui a au mieux un trouble psychologique sévère, au pire, ben, un sévère retard mental.
Ouais, mais est-ce qu'à la base, pour décider de passer sa vie à s'occuper d'enfants de moins de 15 ans, il ne faut pas avoir des troubles psychologiques assez sévères?
C'est...
Le problème, c'est que le concept de base de la série, il était génial. Enfin, si on se réfère...
Ouais, au comme ça, Bogoratory, je suis d'accord avec
non,
toi.
Si on se réfère au rôle passé de...
Zoé Deschanel. J'ai vu, tiens, on va faire une pause. Any Given Machin, Phénomène, c'est avec Zoé Deschanel. C'est l'histoire d'un prof de SVT qui. T'as vu ça?
Ah, c'est le film où les plantes tuent les gens,
c'est les plantes, c'est les plantes qui se rebellent. Et,
c'est par.
Et elles tuent les gens.
Ouais.
C'est, il y avait Zoé Deschanel.
Il y a Zoé Deschanel dedans qui a un visage de cire atroce, mais au moins elle sourit pas et elle chante pas. C'est peut-être son meilleur rôle.
Et je savais pas que c'était la Im de Shein Im.
Non, c'est la Shi.
Non, c'est la Im de Shein Im.
Ah, pardon.
Quoi? Tu plaisantes? D'accord, ok. C'est juste moi qui comprends pas ces blagues. Pardonnez-moi, c'est l'alcool. Encore.
Donc non, c'est pas une série très...
Non, je trouve que le concept était super bon, à savoir de prendre le trope de la Manic Pixie Dream Girl. Il y avait un potentiel.
Oh, de la quoi?
De la Manic Pixie Dream Girl. C'est la fille qu'il y a dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, dans Retour à Elizabeth Town, dans 500 Days of Summer.
Retour vers le futur.
Dans Joyce Famous, c'est la fille un peu délurée qui donne de. Qui embellit la vie d'un garçon parce qu'elle est excentrique.
Parce qu'elle est là.
Et
ouais.
Que...
En fait, c'est une fille qui est plus ou moins folle. Mais comme c'est dans un film, tous les mecs la trouvent adorable, alors qu'en vrai, les mecs appelleraient la police et demanderaient à ce qu'elle n'ait pas le droit de s'approcher à moins de 500 mètres d'eux. Mais c'est un peu Suzanne dans Desperate Housewives qui passe son temps à tout brûler,
non,
à tomber,
non,
à faire de
parce
la merde et tout, et tout le monde
trouve
ça trop mignon.
Elle n'est pas conne, elle est juste profondément fucked up. Elle n'est pas du tout.
Et elle apprend aux mecs autour d'elle que...
Manique.
Comme Manic Monday des Bengals.
Manique comme maniaque, comme maniaco-dépressif.
Voilà, exactement, t'as compris le principe. Pixie, comme fée.
Comme un Pixar, d'accord, ok.
Voilà. Dream, comme les rêves, comme ce que tu ne peux pas avoir vu que tu es français et que tu es condamné à la médiocrité.
Non, et Girl. Je suis pas français, je suis algérien, j'ai la double nationalité.
C'est ton corps.
Je suis qu'à moitié médiocre.
C'est encore.
Je suis analphabète de l'autre côté.
Et Girl, comme
le truc inutile sur Perduse.
Blackie, je suis désolée si tu écoutes ça. J'essaie de te le cacher, mais ouais.
Donc en gros, c'est une fille qui débarque dans l'univers d'un mec qui est relativement normal, ouais. Et bien dans sa peau, et qui lui fait... Quoi,
non,
tu refuses de coucher avec moi en public, dans un musée, tout en te peignant en bleu pour sortir dans la rue, mais t'as vu, c'est vraiment de la merde.
C'est
et
pas
du
un
coup,
mec normal,
fou,
c'est un mec
d'elle.
En général un peu triste. Et ça, si ça avait été mis en série... Ben, 500 Days of Summer, vous auriez pas aimé voir ça en série.
Si, et à la fin, ils finissent pas ensemble parce qu'elle est complètement tarée, cette fille. Et c'est ça
qui
est
mais elle finit
film.
Quand même mariée.
Oui, elle finit mariée et on plaint le pauvre mec avec qui elle finit.
Bon, bah, c'était pour ceux qui n'avaient pas vu 500 Days of Summer.
Oui, bah...
En parlant de trucs qui finissent mal, non?
Non, en parlant de ce principe hyper original de gens pétés de thunes qui ne s'intéressent pas aux autres et qui sont centrés sur eux-mêmes, Revenge a repris il y a 2 jours. Oh. Alors
Alors c'est toujours aussi bien.
Comment c'était trop bien. Par contre, moi je suis un peu stressé. Ouais, bah là il va y avoir des spoilers sur l'épisode qui est passé. Ah! Moi-même, mais c'est pas dans ses oreilles. Est-ce que tu regardes Revenge
va regarder,
ou tu vas peut-être regarder?
Je vais regarder Revenge comme j'étais kidnappé pendant quelques mois.
Ouais.
C'est sur mon disque dur, mais pas encore regardé, donc je vais.
Mais c'est clair que.
Alors le problème, c'est que moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'apparemment, le créateur de la série a dit qu'il avait pensé avoir 13 épisodes pour tout faire et que ce serait annulé après et que potentiellement, il a réussi à rallonger son intrigue à 15 épisodes. Donc,
oui.
Je pense qu'à partir de l'épisode 16. On ne sait pas ce que ça va donner.
On va avoir combien d'épisodes au final?
Il y en a 22, c'est sûr, pour la première saison.
Ça va être renouvelé.
Et apparemment, ce qu'il avait dit, c'est qu'à l'épisode 13, on saurait ce qui était arrivé, enfin, qui avait tué
le gars. On ne sait pas qui est mort.
On ne sait pas qui est mort non plus.
Oh, mais non, mais on
c'est pas Daniel.
On est censé penser que c'est le
mec
de son fiancé, mais c'est pas lui, évidemment.
Bah, le fils de Victoria.
Moi, je pensais que c'était
Nelson.
Okay. Ça doit être Tyler ou le père, ou enfin, je crois pas qu'on sache qui meurt, hein. C'est très flou volontairement.
On sait que c'est pas le gay en tout cas.
Quoi ?
On sait que c'est pas le gay. Pardon, pas.
Non,
le gay,
pas
le gay dans Gossip Girl.
Oui, ah bah oui, c'est pas le frère.
Non, mais c'est pas et c'est pas son amoureux d'enfance.
Non, faudrait revoir en fait le.
Les 5 premières minutes du pilote. Envie de revoir les 5 premières minutes.
Non, mais je suis sûr que c'est pas lui. Enfin, faut pas vous attendre à ce que ce soit lui.
Ah, mais parce que, alors moi, j'avais lu un truc dans, comme quoi, justement, le créateur disait Daniel. On devait savoir qui avait tué Daniel dans l'épisode 13.
Ah bon,
peut-être que c'est moi qui l'ai fantasmé. Il a juste dit non, on devait savoir ce qui s'est passé dans le premier épisode. En tout cas, pour l'instant, ça continue à marcher super bien. Effectivement, ils grillent leurs cartouches, puisque là, ils se débarrassent d'un personnage qui était. Qui était l'un des plus.
Aussi de la série.
Stimulant. Enfin, qu'est-ce qu'il va faire Nolan maintenant?
Il va sortir avec Ashley.
Hein?
Il va sortir avec Ashley. Tu sais, la fille qui organise des fêtes et tout.
La fille de Greek.
Oui.
C'était très drôle ma blague.
Tu sais pas compris.
Qu'est-ce qu'il va faire Nolan? Il va faire The Dark Knight Rises.
Ah non, mais j'ai cru que tu disais qu'il allait être acteur dans le film.
Ah,
là, je comprends
oui,
que
oui,
c'est
oui, parce que c'est Christopher Nolan. C'est bon, tu peux.
Non, mais c'est complètement. C'est la série la plus. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi en permanence, mais c'est assez plaisant.
Mais c'est parce pas que, tant c'est... que ça, n'importe quoi, puisqu'en gros, ce que je me dis, c'est que tu serais dans cette situation-là, balancé au milieu de ces gens-là. Finalement, vu ce qui leur arrive, ils ont des réactions à peu près normales. Ouais. Nolan, il est menacé par un psychopathe. Ce qu'il fait, c'est qu'il a plein d'argent, et ben, il embauche des gardes du corps. Tu te dis, ah bah ouais, tiens, effectivement, pourquoi pas. Donc, ils ont des réactions à peu près cohérentes avec la vague personnalité qui leur a été dessinée au début. Je trouve que ça fonctionne toujours bien.
Et puis, quand tu vois, genre, 90210, qu'il faut regarder, c'est pas très what the fuck. Enfin, ça reste très, très crédible.
Je sais pas si j'aurais dit que Revenge était la série la plus crédible de l'antenne, mais soit.
Bah, je trouve que c'est.
Non, mais moi, ce qui est plaisant, je trouve, c'est qu'ils passent pas leur temps à essayer de rendre l'héroïne sympathique. Et ce qui aurait été le pire qu'ils pourraient faire dans cette série, parce qu'elle n'est pas du tout sympathique. Et au moins, du coup, ils se concentrent vraiment sur les relations. Et du coup, on a l'avantage d'avoir un soap où, en fait, tous les personnages se tirent dans les pattes en permanence et il n'y a pas la gentille voix blanche quelque part au milieu de tout ça. Donc c'est plutôt agréable. Et puis les flashbacks sont quand même vraiment bien, parce que la gamine qui joue Emily Storm dans les flashbacks est complètement... non, la gamine, la petite, elle est flippante. On dirait vraiment...
Laquelle?
La gamine de 8 ans qui joue Emily Storm dans les flashbacks.
Oui. Là, si vous entendez un truc, c'est Drum, en fait, qui a mis les doigts dans ses oreilles, qui fait... pour pas
il
être spoilé sur quelque chose...
sur quelque chose qu'il ne regarde pas.
Ouais.
C'est bon, on continue à en parler.
Ouais, c'est bon. Mais c'est super, Revenge.
Cool, c'est mieux que Ringer.
Surtout le moment où elle meurt, en fait. Oups.
Ah non, c'est moins bien. Non, Revenge, c'est mieux que Ringer. Mais Ringer, moi, ça m'amuse toujours. Ça m'amuse toujours un peu. Mais les deux, trois derniers épisodes... On en a pas parlé déjà de Ringer dans le dernier podcast, un peu. J'ai pas dit à peu près la même chose.
Je sais plus.
Bah, en gros, enfin, ouais. C'est pas très bon. Je pense que Ringer... se prend un peu plus au sérieux que Revenge, mais pas tellement maintenant. Ils se sont rendu compte que le thriller sérieux, ils n'y arrivaient pas du tout. Et ça va, ça marche plutôt bien. Et Sarah Michelle Gellar est pas trop mauvaise, donc c'est pas si mauvais que ça. Ça se laisse regarder, c'est plutôt agréable. C'est moins génial que Grey's Anatomy, les deux derniers épisodes. L'épisode de la pause et l'épisode de la reprise.
J'ai pleuré, oui, j'ai pleuré. Encore plus qu'à qu'à l'impossible annulation de Community. J'ai trouvé ça merveilleux. J'aime de plus en plus Sandra Oh. Ce qui n'est pas dur, vu qu'au début, je la détestais, mais je trouve que son personnage est magnifique.
Elle est moche quand même, l'actrice.
D'accord, je dis
en personnage. Elle est moche, mais c'est une actrice géniale.
C'est une actrice
et effectivement,
qui est vraiment...
dans ces deux épisodes-là, les personnages, 3-4 personnages, sont foutus dans des situations impossibles qui peuvent arriver que dans une série télé. Mmh. C'est-à-dire que...
Vas-y, on va faire un résumé.
Comment est-ce qu'on peut raconter
Teddy, c'est la mentor de Christina. Teddy, elle a épousé un malade pour qu'il ait une assurance.
Mais elle est tombée amoureuse de lui.
Oh. Bon, mais malade, ça c'est pas grave. Le malade qui est joué par Sean de Scrubs. Donc tu vois vraiment.
Scott Foulet.
Mais oui. Donc voilà,
Noël,
tu comprends.
De Felicity.
Noël de Felicity, voilà. Vraiment.
J'étais trop jeune, désolée.
Et il arrive. Donc elles sont toutes les deux chirurgiennes cardiothoraciques.
Et elles bossent ensemble. Il y en a une qui est l'interne de l'autre.
Teddy est coincé sur une opération hyper importante qui va lui prendre 12 heures. Et à ce moment-là, alors qu'elle est dans le bloc opératoire, son mari a un gros souci.
Non, parce qu'elle le voit avoir son souci. Elle rentre à la maison après qu'il soit engueulé parce qu'il veut reprendre ses études de médecine. Et puis elle n'a pas envie, alors ils sont engueulés. Mais elle rentre le soir, toute pleine de bonnes résolutions. Et puis elle le voit, « Bonsoir chérie !» Et là, il se retourne vers elle et il tousse du sang. Ah oui. Et il se met à vomir du sang, c'est horrible, tout le monde est là, oh mon dieu, il va mourir. Il doit se faire opérer.
À Seattle Grace, et là il faut qu'il soit opéré par le meilleur chirurgien cardiothoracique. Ça peut pas être elle, puisque c'est sa femme, donc il faut que ce soit la deuxième meilleure.
C'est Christina,
mais on peut pas dire à Christina que c'est.
Que c'est le mari de son mentor qu'elle est en train d'opérer parce qu'elle est trop.
Parce qu'elle
est
encore hyper proche. Instable. Elle sera trop proche.
Donc, on choisit de cacher
le visage
du patient avec un drap et de faire opérer Christina en lui donnant seulement l'historique du patient.
Alors, sauf que... à partir de là, Teddy, elle, est balancée sur une opération qui va durer 12 heures pour sauver d'une faute professionnelle l'ex-femme de l'homosexuel qui s'était fait insulter par le noir au tout début, là.
What?
Et si, la Cali.
Sarah Ramirez.
Ah,
voilà,
d'accord.
Sarah Ramirez.
Et donc. Légende dans Spamalot.
Et donc. Teddy est en train d'opérer. Et bon, bah, Christina, elle fait son opération sur le mari. Puis elle foire. Enfin, en tout cas, c'était trop tard. Elle pouvait rien faire.
La tumeur s'est propagée partout. Qui avait bouffé la veine aortique.
Bref, il m'a fait. Ah bon, bah hop, time of death, machin. Et là, elle soulève la. Bon, il se passe après un quart d'heure avant qu'elle se rende compte qu'elle est opérée. Oh mince. Le mari, il est mort. Et là, tout Seattle Grace a dit oh, est-ce qu'on doit le dire à Teddy ou pas, sachant qu'elle est en train d'opérer opérer un gars ou
Et c'est hyper important.
Et c'est hyper important qu'elle reste 12 heures hyper concentrée. Et là, ils choisissent de ne pas lui dire.
Et le problème.
Et là, hop, et là, ça là c'est deux mois de pause.
Et déjà, tu pleures parce que Christina, sa réaction quand elle apprend que. Quand elle apprend que c'était. Oh, c'était tellement beau. Quand on lui dit, en fait, son mari, il va lui dire qui elle était en train d'opérer. Et elle, en fait, on la voit s'effondrer sans entendre ce qu'elle dit. Mais on imagine très bien, enfin, c'est encore mieux qu'on l'entende pas parce que on imagine très bien toute la souffrance qu'elle ressent là-dedans.
Elle pleure, il y a de la grosse musique derrière, c'est pour ça qu'on comprend rien, c'est ça?
Ah non, c'est derrière une vitre et tout. Et on voit le mec de Rome qui lui dit quelque chose. Bon, bah, le quelque chose, c'est papa. T'as tué le mari de mon ex. Ouais. Ils étaient ensemble, le mec de Rome et Teddy.
C'est vrai.
Reprise de Grey's Anatomy, on fait ouais, bon, c'est Grey's Anatomy.
J'avais peur qu'ils reprennent genre
trois mois plus tard.
Voilà.
Ah, ouais.
Mais non, ils reprennent pile là où on s'est arrêté.
Teddy a un souci avec son opération, elle fait il me faut une cardio thoracique tout de suite. Et bah hop, il me faut.
Il me faut un Christina. Deuxième mois. Oh. Je veux personne d'autre que Christina, il me faut quelqu'un qui soit aussi bon que moi. Et donc il y a Christina qui doit retourner dans le bloc opératoire avec Teddy face à la femme. Parce que, ah oui, avant ils sont. Dans le dernier épisode, ils sont allés parler à Teddy pour lui dire que tout se passait bien avec son mari, que l'opération avait été un succès et qu'il était en salle de réveil ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc ils lui ont menti en disant que son mari s'en était tiré et était très bien. Et donc il y a Christina qui doit aller dans le bloc et continuer une opération de 12 heures quoi.
Le moment le plus génial, c'est Teddy, elle est un peu engourdie tout ça. Et donc elle a une méthode pour se redonner un peu de punch, qui n'est pas prendre de la cocaïne, mais qui est sauter comme une fille de New Girl, c'est-à-dire qu'elle fait...
et elle rigole et tout ça, machin. Et donc tu vois les deux qui sont en train de rigoler, de s'amuser.
Tu pendant sens... que derrière la vitre, dans la galerie, il y a
tout
deux.
Tout le monde qui.
Il y a deux. Il y a le mari de Christina et puis l'interne, là. Enfin,
Kepner,
la chef, de, la chef d'interne là, complètement insupportable.
Bah non, elle est super.
Enfin, plus doux, insupportable pour
tout
les deux.
Tout ça parce qu'elle est vierge. Oh là là, c'est pas bien.
Elle est toujours vierge.
Mais ouais, je crois qu'elle a couché avec personne.
Il n'y a pas eu un épisode où, à la fin de l'épisode, elle était là dans un bar et puis, tu sais, son mentor, elle lui avait dit « il faut que vous le fassiez sauter » et on la voyait partir avec un mec.
Ouais, peut-être.
Voilà.
Alors, en tout cas, merci, dire que Brum et moi, là, on est les larmes aux yeux à entendre
toi, la manière dont tu racontais. Toi, tu t'es réfugié dans la nourriture.
C'est ça.
Moi, j'étais déjà en état de choc, je ne parlais plus.
Non, mais
c'est
c'était
mieux
super.
C'est mieux quand c'est sur fond de Snow Patrol, franchement. Je sais pas si c'était Snow Patrol le dernier épisode, c'est juste que c'est une musique cliché.
Ouais, et ben en tout cas, c'était super, super. La série dont je suis plus
moi,
content.
C'est... Moi, ah, c'est la seule série, c'est la seule série Grey's Anatomy, c'est franchement une des seules séries que j'attends vraiment de semaine en semaine. J'ai envie de la voir.
Oh,
oh.
T'es un peu notre new girl de nous, t'es une fille bizarre, retour avec trois gars.
D'accord.
Qui ne te comprennent pas, mais leur vie est tellement meilleure depuis que tu es arrivée.
Oh, je sais. C'est trop d'honneur.
Avec quoi d'autre? Parce qu'on a épuisé toute la liste. Ah bah si, Drum devait nous parler de
Parenthood.
Ah, c'est les parents de Robin des Bois, c'est l'histoire de Robin des Bois et de ses parents, c'est ça?
Je devais parler de ça?
Ouais.
Bon, oui. C'est pas très bien. Hein.
Eh bah merci.
Mais ça se regarde.
Le podcast.
Non, mais on en revient au fait que NBC n'a...
Non,
pas
grand
chose à mettre à l'antenne, donc une série qui a une endurance qui n'est pas négative, ça reste à l'antenne.
Ouais.
Vous avez vu Grimm?
Ouais.
Alors?
Quelle horreur!
À quoi?
Ouais.
C'est quoi la différence entre Grimm et Once Upon a Time?
Once Upon a Time, ben, c'est un vomi d'effets spéciaux très très mauvais, mais avec une histoire assez sympa. Et des personnages féminins forts.
Tu rigoles, c'est Lost avec Blanche-Neige, en fait.
Ouais, c'est ce que je dis. Non, non, je trouve que Once Upon a Time, l'histoire est sympa, il y a des personnages qui sont bons. Et puis, l'intérêt de Once Upon a Time, c'est que tous les personnages forts, entre guillemets, c'est des femmes. C'est la seule série où tous les personnages forts, c'est des femmes.
Bah, il y a Grey's Anatomy. J'y ai pensé aussi pendant Grey's Anatomy.
Ouais,
elles sont
aussi
là, les femmes fortes,
puis,
qui ont des
super. Et il y a eu Christina qui a... Surtout, il y a eu Christina qui a avorté.
Ouais.
J'ai été admirative dans la série. Ils font avorter Christina. Ils en font pas toute une histoire. Ça bousille pas vraiment son mariage. Ah alors non. Que lui, le voulait. Et ouais, ils en font pas 3 tonnes. Et j'ai trouvé que c'était... Ça faisait plaisir de savoir qu'un personnage avortait comme ça.
C'est marrant à quel point il n'y a pas eu de réaction...
Choquée.
Mais c'est parce que c'est Christina, le personnage un peu bizarre.
Non, Christina, pour moi, c'est le personnage... Ouais,
non, mais c'est pour ça que ça aurait été Meredith qui aurait avorté. Je pense qu'on en aurait entendu beaucoup plus parler.
Oui, mais c'est surtout que Meredith, elle en aurait fait une crise pas possible, parce que...
C'est aussi parce que c'est la 50e saison de Grey's Anatomy et que c'est plus...
Que tout le monde s'en fout.
Ouais.
Mais non, tout le monde ne s'en fout pas.
Non, je te jure, il y a beaucoup de gens qui...
Donc t'es en train de dire que Once Upon a Time, c'est une série féministe et...
Non, je dis pas que c'est une série féministe.
Parce qu'à la base, c'est Blanche-Neige, hein. C'est ça, ton héroïne de femme forte. Blanche-Neige et la méchante reine, c'est ça?
Ouais, tout à fait.
D'accord.
Et le personnage là de...
C'est vrai que c'est les figures qui ont toujours choisi des féministes pour, dans leur combat.
Parce d'accord, que c'est pas d'accord. Comme si le dimanche il y avait une autre série avec des femmes fortes à l'antenne, ou genre de Good Wife, ou
Desperate
Housewives.
Desperate Housewives, c'est des femmes fortes.
Non, oui, bah, elles arrêtent pas de Blanche-Neige. Tuer des gens.
Non, je dis rien sur Desperate Housewives.
D'accord, des femmes fortes qu'on n'a pas envie de flinguer.
Bah, encore une fois,
The Good Wife.
D'accord, non, mais The Good Wife, ça compte pas parce que je la regarde pas, donc ça existe pas.
D'accord.
Voilà. Et dans Revenge, t'as plein de femmes fortes aussi dans Revenge. Les mecs,
c'est
que
des
mollusques qui sont là
des
pour larmes. Être jolis, quoi. Mais,
c'est vrai.
Cette année, enfin, j'ai un peu de
en fait, alors, on a une année de série TV très féministe.
Mais moi, je trouve que les hommes forts manquent un peu à la télé.
Au contraire.
Pourquoi?
Regarde les comédies qu'il y a en ce moment à l'antenne.
Il n'y a que des hommes faibles.
Il n'y a que des hommes faibles, mais regarde... Enfin, entre les hommes faibles et des personnages féminins insupportables...
Les hommes sont faibles et les femmes sont folles.
On part d'un moment où il n'y avait pas beaucoup de comédies, mais elles étaient menées par Tina Fey, Julia Louis-Dreyfus, Amy Poehler. Maintenant, il y a quoi? Il y a Whitney Cummings, il y a Chelsea Handler. Trop bien, quoi.
Et Zoé Deschanel, quoi, c'est ça?
Et Zoé Deschanel.
Dans les comédies, quoi.
Zoé Deschanel, ça aurait pu être un très très bon personnage.
Non, Zoé Deschanel, c'est...
T'as expliqué, ça n'aurait pas pu.
Si,
faut passer à autre chose.
Non.
Maintenant que tu sais la
c'est
vérité...
C'est la Calista Flockhart de ta génération.
Oh, moi. Elle était super, Ally McBeal.
Moi, j'aimais beaucoup Ally McBeal.
C'est un sérieux problème, ça aussi.
Sérieusement?
Mais t'as grandi avec Ally McBeal. C'est peut-être un souci.
Non, c'est que t'as... Comme moi, j'ai grandi avec One of Doctors, c'est une de mes séries préférées. Je ne pourrais pas l'avouer à tout le monde.
Mais je connaissais la danse de Ally McBeal, leur truc dans le...
passe régulièrement tous les génériques sur YouTube. J'ai la version longue. J'ai la version longue, il n'y a que le mec qui chante.
Elle est horrible, cette version.
Oh, j'aime bien, moi.
Et Joanna Kearns, c'est dommage qu'elle n'ait pas fait une plus grande carrière. Mais j'adorais la mère.
Elle était super.
Moi, j'aimais bien la sœur anorexique qui disparaît un moment sans aucune raison. Parce qu'elle était trop anorexique. Et puis, à la fin, on ramène Leonardo DiCaprio qui est adopté par Kirk Cameron. C'était... C'était le début de la télé.
Là, c'était autre chose que Broadwalk Empire. C'est moi qui te
dis.
Broadwalk Empire, oui.
L'une des défauts où j'ai pleuré à la télévision, je me rappelle, un épisode de Quoi de Neuf Docteur où le copain
oui,
de Carole.
Oui, se font cambrioler.
Non, ah le là copain là. De Carole, joué par Matthew Perry, meurt à l'hôpital.
C'est moins bien que Grey's Anatomy.
Il meurt sur un lit d'hôpital et c'est Kirk Cameron qui va dire à sa sœur.
C'est-à-dire qu'elle
pense c'est tellement bien. C'est un joueur de tennis et tout.
Je vais pas regarder The Wire en fait, je vais rattraper. Docteur.
Ah, on aurait dû parler de Louis, mais...
Louis, c'est super bien. Il faut que vous regardiez la série. Il faut que vous regardiez tous les stand-up de Louis C.K. En commençant par Hilarious.
Ah non, c'est pas super chiant du tout. Non, mais effectivement, ça pourrait se...
C'est grandiose,
ça pourrait être la comédie un peu prétentieuse avec un type qui fait tout et concentré sur lui. Mmh. Si tu trouves pas le mec drôle, bah effectivement, ça a pas d'intérêt. Mais en fait... Ce qui est génial, c'est qu'à chaque épisode, tu ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir. Ça va être un épisode drôle, ça va être une immense tragédie. Parfois, tu as 3-4 histoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais qui sont drôles. Et le gars, il fait tout. Il écrit, il joue, c'est vraiment...
Il fait le montage aussi.
Et donc, t'as des scènes, tu peux avoir des scènes incroyables. Il y a une scène, le début d'un épisode où ça se passe dans le métro.
Ouais.
Où c'est quoi ? Je ne me rappelle plus, mais c'est super. C'est tellement beau, c'est en noir et blanc.
C'est l'épisode où...
C'est un Yama, violoniste.
Il y a un violoniste, je crois, et puis je ne sais plus ce qui se passe, mais je vois tout à fait la scène.
Il joue et tout ça, c'est hyper émouvant. Et il y a un clodo qui le tape ou un truc comme ça.
Non, mais super comédie.
Non, mais c'est...
Une comédie
c'est vraiment...
en noir et blanc qui se passe dans le métro, on ne sait pas trop ce qui se passe.
Il n'y a pas de continuité.
Oui, un violoniste qui se fait tabasser.
Mais non, mais c'est juste une scène. C'est juste une scène comme ça. Le gars, il a envie de faire cette scène-là parce qu'il a trouvé que, je sais pas, ça pourrait être beau, émouvant,
machin. C'est vraiment des scènes. C'est ça qui est génial, c'est que c'est des scènes de vie, mais sans le côté chiant, quoi. C'est vraiment, c'est beau, c'est plein de, c'est à la fois plein de désespoir et d'espoir, c'est...
Et il n'y a pas de continuité d'un épisode à un autre, c'est les mêmes personnages, c'est-à-dire c'est toujours Louis C.K., ses deux filles, il y a une base générale, mais ce qui se passe dans un épisode n'a pas d'influence de ce qui se passe dans le prochain, donc il peut y avoir la mort de quelqu'un.
Mais c'est pas une série.
Si.
C'est quand même une vague
un
anthologie, quoi.
C'est un sketch.
Alors,
pas vraiment, parce qu'il y a...
C'est pas drôle. Ouais.
Si, ça a crevé de rire. Ah, moi, c'est
des
la
fois,
seule...
Des fois, tu peux mourir de rire.
Moi, c'est la seule série qui arrive à vraiment me faire rire à ce point-là, tout en me touchant autant. Alors que pourtant, un mec de 50 ans, qui a deux filles, qui divorce, c'est pas forcément le genre de contexte par lesquels je suis concernée, mais ça me touche.
Je sais pas, hein.
Montre-moi sur la fève en forme de jeune fille où Louis C.K. t'a touché.
Alors j'aimerais qu'il m'ait touché là, mais il m'a juste touché là.
Oh. C'est ethnique. Voilà, bon bref, pour toutes les personnes qui ne voient pas les fèves de...
Vous avez perdu beaucoup.
Iris et Drum, pour conclure ce podcast, quelle est la série que vous attendez le plus pour 2012? Et ne dites pas Cougar Town, parce que ça ne compte pas.
VIP. Ah, une série du câble.
Mais oui.
Julia Louis-Dreyfus.
Soit...
T'as vu le teaser?
Le teaser me fait rire. Alors oui, c'est une scène en noir et blanc avec un violon et Jude Bellingham qui tabasse un clodo. Et tu pleures, mais c'est drôle, tu vois.
Oh, c'est nul. Bon, oh, c'est alors, nul.
J'attends soit la série de Sorkin, là, In the Newsroom, In Progress.
Ah oui.
Ah, super, ça va être Studio 60 à nouveau, quoi.
Non, non. Et puis même si non, c'est Studio 60 si à nouveau, moi, ça
histoire de gens super géniaux, mais tu comprends pas pourquoi.
Ouais. Studio 60, c'était pas bien, quand même.
Moi, j'avais
c'était
beaucoup.
Nulissime, Studio 60.
Le pilote, j'avais beaucoup aimé le pilote.
Ah, moi aussi, j'avais beaucoup aimé le pilote.
Ah, moi, j'avais adoré le pilote, et puis ah, par la suite...
Et après, j'avais détesté les 15 autres épisodes.
Dans le deuxième épisode,
non, ça, c'est dans le pilote.
Non, c'est dans le deuxième épisode.
Ah, bah, moi, je considère ça comme le pilote, et le moment où il chante tu... avec tout, j'avais trouvé ça grandiose. Oui, c'est la deuxième partie du pilote.
Non, c'est le deuxième épisode.
Bon, d'accord, c'est le deuxième épisode. Eh ben, j'aime beaucoup cet épisode. Je trouve que c'est un épisode qui est vraiment, vraiment hyper bon. Cette scène de fin, je la trouve géniale.
La scène de fin de l'épisode
où ils chantent tous We'll be the very model of our model on our tour.
Non, mais peut-être que le deuxième.
Oh,
non, je crois que j'avais trouvé ça. Non, moi ça m'avait pas déplu dès le deuxième épisode. Moi je crois que ça m'avait bien plu aussi, mais c'est de notre côté.
Mais c'était tellement moralisateur.
Oh, peut-être.
Le seul truc bien dans la série, c'était la partie avec le mec de Wings, comment il s'appelle? Steven Weber?
Ouais.
Avec le chef du network, c'était la seule partie qui m'avait plu.
C'est là où il aimait de la télé-réalité, tout ça, non?
Ah, mais ouais, des personnages qu'on n'était pas censé aimer, qui étaient seuls un peu vaguement normal.
Qui n'a rien à voir avec le reste de la série, hein, mais...
Et puis Wilfred, le retour de Wilfred.
C'est quoi Wilfred?
C'est la série avec Elijah Wood qui voit un chien. Enfin, qui voit comme un humain, comme un gros Australien buveur de bière, un chien. Et c'est génial. Et
on
c'est...
a expliqué Grey's Anatomy de la même façon, c'est pour ça qu'ils n'ont pas compris. C'est pour c'est ça, diffusé... vous n'avez pas compris. Regardez les épisodes de Grey's Anatomy, ne nous écoutez pas.
C'est diffusé depuis la saison dernière, depuis l'été dernier sur FX, je crois.
Oh, Archer, il y a Archer qui va revenir, c'est super. Il faut écouter les conseils de Jules. Ah ouais, non, ouais, c'est à mourir de rire. Non, et Jules, Jules a toujours raison. Et pour une fois, il a pas tort.
Tu sais qu'il nous écoute sûrement pas, donc tu peux dire la vérité.
Et Archer, c'est vraiment super, 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 super drôle. Et il y a de la continuité entre les épisodes.
J'avais regardé la première saison, je crois.
Et ça t'a pas plu?
Si, ça m'a plu. Mais tu sais, je regarde 40 en série, dont 35 que je déteste. J'ai pas de temps pour les séries, j'aime.
Phrase de conclusion idéale, à bientôt.
Bientôt, bientôt. Bientôt. Enfin, c'était le seul podcast de 2012, on est bien d'accord.
Oui. Mais 2015, c'est bientôt.
Quel